Bonjour, bienvenue à vous tous qui êtes dans ce hall départ de la gare de Toulouse-Matabiau. Avec Fabienne Hiver, ici présente, et avec Arthur, dont j'ai encore le nom de famille, ça c'est monstrueux. Arthur Degg, voilà. On va vous proposer une performance poétique. Ah bah et moi, oui, alors moi c'est Simone, c'est comme ça que les cheminots me connaissent. Puisque je suis la voix de la SNCF partout en France. Voilà. Alors Fabienne, pendant assez longtemps, elle s'est installée dans la gare et puis elle a chopé tout ce qu'elle pouvait choper. Les bruits de conversation, les réflexions, aussi bien des voyageurs que des agents SNCF, les publicités, tout ce qui fait la vie d'une gare. Et Dieu sait si dans une gare, il se passe des choses. Bayonne, Muret, la Tour de Carole, Rodez, Marseille-Saint-Charles, Mazamet, Paris-Montparnasse, Muret, Narbonne, Pamiers, Bordeaux-Saint-Jean, Auch, Montauban, Carmaux, Pau, Niceville, Lille-Jourdain, Agen, Clermont-Ferrand, Carmaux. Le train n'est pas encore annoncé. Contrairement à ce qui a été affiché, l'intercité numéro en provenance de... entrera en gare, voir. Madame, monsieur, un petit rappel s'il vous plaît. Un coup de sifflet annonce le départ du train. Les personnes descendues pour fumer sont priées de se rapprocher des portes. Enfin, néanmoins, permettez-moi de vous dire que de toute façon, il est interdit de fumer dans l'enceinte de la gare, même sur les quais. Non, mais alors, merci. Votre attention s'il vous plaît.
Je voudrais poster mes lettres. Est-ce que...
Votre attention, s'il vous plaît.
Tu pars au quart de tour.
Éloignez-vous de la bordure du quai.
Chez Paul, après s'être acheté à manger, une dame achète un petit pain aux olives et un chocolat chaud à une mendiante qui lorgnait la vitrine tout près d'elle en insistant. Elle remercie les gens dans la queue qui l'ont laissé passer une seconde fois. Ce sont eux qui la remercient de leur avoir ôté un peu de mauvaise conscience. Peu après, elle rapporte autre chose à manger à la mendiante, en train de tremper son petit pain dans le chocolat chaud, avec un geste d'attouchement sympathique.
Des gens derrière des téléphones, devant des écrans, avec des valises et des sacs de toute taille, des béquilles, accident de personnage. La circulation des trains est très perturbée sur l'axe ferroviaire Bordeaux-Toulouse dans les deux sens. Secours en cours d'intervention. Wi-Fi gratuit et limité.
On va dominer le monde sur la table haute. On verra plus clair. Là, je suis en bonne compagnie. Ils disent même pas les retards maintenant. De toute façon, les voyages, quand ça commence, retard 0 minute. Ils n'ont pas l'habitude d'afficher une heure de retard.
Merci de votre compréhension.
Une pièce de 2 euros posée dans une main sèche et rouge, vite enfournée à peine merci. Demi-tour vif pour continuer la quête.
Ce Noël, partagez encore et encore. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Je veux être le nouveau souffle. Ultra design, ultra fin, ultra léger. L'armée de terre recrute 15 000 postes. Réservez vite vos billets pour la Côte d'Azur.
Affalé 3 canettes de bière autour de lui, personne ne vient s'asseoir sur le siège d'à côté.
www.mangerbouger.com. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Tabac, relais, Selecta. J'ai soif d'aventure.
Fois 4, nous sommes partis. En avance, vous nous retrouvez.
Votre volonté, notre fierté. Je veux aller de l'avant. Croyez-vous au coup de foudre? x33oua.s'engager.fr.
Ils n'ont pas voulu me vendre le billet que je voulais, comme le train est en retard, je pouvais me faire rembourser. Du coup, ça complique tout.
Retrait gratuit en 48 heures. Je veux être le nouveau souffle. Livraison à domicile en 48 heures.
On se demande pourquoi on ne prend pas le train, mais à chaque fois.
Pour que la liberté ne recule jamais.
Bonjour, nous venons d'écouter un extrait d'un travail, d'une création, comment peut-on dire, création proposée par Fabienne Hiver, qui l'an passé avait été résidente à la CAF Poésie durant toute l'année, et dont cette diffusion, enfin ce que vous venez d'entendre se passait ce matin à la gare Matabiau, puisque c'était un travail de commande de la part de la CAF Poésie, et donc ensuite aujourd'hui nous recevons beaucoup de monde, à savoir Yann Balade, le directeur de la CAF Poésie.
Bonjour.
Gilles Gonor, maison d'édition Un thé chez les fous.
Bonjour.
Jean-Yves Audroin, la maison d'édition N et B. Et
bonjour.
Ensuite, le collectif musical Poulain-Jarre avec Léa Montex et Fabien Rimbaud, dont vous faites des lectures musicales.
Oui.
Bonjour.
Et si tout ce beau monde est ici aujourd'hui réuni, c'est afin de parler de la troisième édition de Un bazar chez René, donc qui a commencé ce matin d'une certaine manière, puisque c'est Fabienne Hiver qui ont ouvert le bal, si je puis dire.
Voilà.
Ensuite, ce soir, il se passe des choses à la CAF Poésie. Et ensuite, c'est tout le week-end avec diverses rencontres avec 27, enfin j'ai compté, vous me direz si je me trompe, éditeurs, hein, maisons d'édition.
Voilà, exactement.
Petites maisons d'édition, maisons indépendantes, qui sont des fois très ciblées, notamment autour de la poésie, pas que, mais entre autres. Et puis aussi, il y a toute une, comment dire ça, la fête des maisons d'édition, oui, mais aussi de tout ce qui tourne autour du livre, tous les aspects du livre, comment cela se fabrique-t-il, de l'aspect le plus technique au plus poétique, si je puis dire. Et puis, il y a aussi une réappropriation de la rue du Thor, puisque la CAF Poésie est située rue du Thor. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour.
Si, si.
D'accord.
Bonjour.
Donc, je vais commencer par vous, peut-être. Puisque c'est vous qui avez eu l'idée de faire ces rencontres début septembre.
En partenariat avec les... Enfin, c'est un projet qui est...
Oui, mais ça... Voilà.
Les éditeurs,
Oui. Pour vous, pourquoi c'était important, c'était pratiquement vital de convier comme ça toutes ces maisons d'édition, puisqu'il y en a beaucoup, ne serait-ce que dans la région, et qui font un travail comme ça de fourmis tout au long de l'année, qui ne sont pas forcément connus du grand public.
Mais parce qu'en fait, il n'y avait plus de salon du livre à Toulouse, et que les maisons d'édition indépendantes de la région font un travail vraiment extraordinaire, notamment un travail autour des littératures étrangères, donc beaucoup de littérature traduite, qui ouvre en fait sur le monde. Et je pense que c'était du rôle de la CAF de se faire un écho de toutes ces publications qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, on a monté ça avec les éditeurs il y a 3 ans maintenant, l'envie de créer finalement une rentrée littéraire. Ça s'est un peu finalement imposé à nous, sans qu'on l'ait vraiment réfléchi. On a cherché une date, on s'est arrêté sur les journées du patrimoine.
Et justement, pourquoi les journées du patrimoine ? Et du matrimoine, il ne faut pas oublier aussi.
Et du matrimoine aussi, oui, parce que le livre est un objet patrimonial et que le travail que font les maisons d'édition indépendantes de la région est aussi un travail patrimonial. Et puis c'était aussi pour trouver une date, ça nous allait bien pour la rentrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a des éditeurs qui se servent de ce rendez-vous pour publier leurs bouquins. Comme un objectif de rentrée, ils savent qu'à ce moment-là il va y avoir du public, il va y avoir des gens à qui faire partager leur travail, donc c'est intéressant finalement.
C'est un rendez-vous incontournable, vous voulez dire ?
Incontournable, je ne sais pas. En tout cas, c'est un rendez-vous qui, pour nous, est important.
Non, parce que je veux dire que sans les maisons d'édition indépendantes, et souvent qui fonctionnent avec des moyens, très...
Réduits.
Voilà, ne sont pas forcément toujours connu de tout le monde, quoi. Enfin, c'est pas.
Ah, mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait de.
C'est une richesse
oui,
extraordinaire.
La CAF Poésie est identifiée à Toulouse comme un lieu des littératures en scène. Donc, nous, ce qu'on a essayé d'imaginer avec les éditeurs, c'est un événement qui ne soit pas un salon du livre traditionnel et qui mélange à la fois des concerts lecture, à la fois des performances, des conférences, des rencontres.
Des ateliers aussi.
Des ateliers et puis aussi, plein d'espaces où les éditeurs ont la possibilité de présenter leurs ouvrages. Évidemment, la cave est toute petite, donc on a dû inventer une autre façon de présenter les livres. Donc on fait des entassements de caisses, on est allé chercher des armoires à Emmaüs. C'est un beau bric-à-brac, d'où le fait que ça s'appelle un bazar littéraire. Mais on le veut avant tout convivial, que les gens aient envie de venir farfouiller à la cave Po, se perdre dans les différentes salles qu'il y a, et découvre au hasard des livres auxquels ils ne s'attendaient pas.
Et est-ce que vous investissez aussi cette année la cour de la bibliothèque du patrimoine ?
Non, alors cette année on sera derrière la CAF Poésie, dans la cour de l'école Sermet. Il y aura effectivement une tente berbère ouverte. Donc on proposera aux gens de découvrir le lieu d'une autre façon.
D'accord. Et donc c'est aussi à la cave aussi, il se passe des choses.
À la cave, il y aura les lectures, les rencontres, toute la partie spectacle
artistique,
vivant.
Artistique quoi, plus artistique, d'accord.
Oui, spectacle vivant.
D'accord. Mais je vais peut-être demander aux deux éditeurs présents, puisque c'est pas tous les jours qu'il y a des éditeurs à Canal Sud. Je commence par vous peut-être, Gilles Gonor. Un thé chez les fous.
Oui.
C'est un beau titre. Enfin, oui, c'est un beau nom.
Oui, c'est un chapitre de l'Alice de Lewis Carroll, voilà, qui nous allait bien, un livre auquel on revient toujours.
Vous pouvez présenter votre maison d'édition, et en sachant que là, vous allez lancer une revue, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Un thé chez les fous, on l'a fondé avec Céline Lucet, ma compagne, en parallèle de la librairie Au Les Beaux Jours, et de cette aventure-là, c'est puisqu'on faisait déjà une librairie richissime et connue dans le monde entier. On s'est dit, on va faire une édition de la même manière, richissime et connue dans le monde entier. Non, mais c'était pour rejoindre quand même toute une histoire du livre qui vient souvent de, même au départ, d'imprimeurs qui sont devenus éditeurs, voire de libraires, imprimeurs, éditeurs. Ça, c'est la vraie histoire du livre, ça part de là, quoi.
Et vous, c'est votre parcours, vous pouvez justement dire comme ça, d'où ça vient, cet amour des livres?
Oh, ça fait, j'étais scénariste avant, pendant quelques temps, et après je suis devenu libraire, j'avais fait par intermittence, mais voilà, donc j'ai toujours, ça fait très longtemps que je suis dans le livre d'un côté ou de l'autre, quoi. Imprimeur, j'ai pas fait, moi, j'ai déjà été dans une imprimerie, tout ça, mais j'ai pas fait. Mais voilà, tout ça est lié, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette maison d'édition, et l'autre raison, c'est qu'on avait un texte à publier, qui était le texte d'une amie, donc Magali Murbach, notre premier livre. Qui est scénographe à Paris et qui avait fait un texte, qui est un texte théâtral, mais très curieux dans le sens poétique, c'est-à-dire que ce sont des voix, il y avait tout un aspect scénographie de la page, enfin plein de choses qui nous intéressaient. Et on s'est dit, c'est super, ça va pas être facile, si nous on le fait pas...
Qui va le faire, d'accord.
On s'est dit, on le fait, voilà. Puis une fois qu'on a eu la maison d'édition, il y a eu d'autres rencontres avec Yvan, enfin c'est fait comme ça. Ce qui fait qu'on a fait là 4 livres en 7 ans, avec avoir la production hallucinante... On a un peu plus de temps maintenant, n'ayant plus librairie, enfin pour ce qui me concerne. Mais voilà.
Pour les auditeurs de Canal Sud, quand Gilles parle d'Yvan, c'est Yvan Corbineau qui était venu au micro de Canal en juin, qu'on avait reçu à la CAF Poésie pour son travail autour de la Palestine. Et donc on peut trouver un texte d'Yvan aux éditions d'Un thé chez les fous, ça s'appelle Mamie Rôti, qu'on a donné en lecture l'année dernière à la CAF Poésie, c'était vraiment très bien.
Donc comment fonctionnez-vous, vous, en tant que minuscule maison d'édition, puisque vous êtes deux, si j'ai bien compris, vous et votre compagne.
Voilà, on était trois au départ. Oui, c'est l'idée. On fonctionne. Faut partir de. L'idée, c'est un peu de partir de ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a créé. On s'est dit, bon, on peut éditer un livre, voilà. On ne sait pas si on va en éditer 100, mais un livre, on peut le faire. On peut même essayer de le faire bien. Voilà.
Oui, parce que chez vous, il y a un amour comme ça de l'objet bien fini. Enfin, puisque quand vous aviez la librairie, il y avait, vous aviez tout un pan consacré à la poésie, au théâtre, bien sûr. Vous interveniez aussi chaque fois dans le cadre des Bruissonnantes, avec des livres bien particuliers, de petites maisons d'édition, aussi souvent même des maisons d'édition belges.
Il y avait aussi, oui, parce que c'est assez vivant.
Et c'était toujours, il y avait toujours, comment dire, beaucoup de soins apportés aux livres que vous présentiez. Je parle de l'objet livre. Enfin, il y a toutes ces recherches aussi que vous avez.
Je crois que c'est pour tous les petits éditeurs, pour l'édition en général, mais après, on est dans un processus industriel que tout le monde voit bien, qui fait qu'on perd la dimension un peu d'unicité. On est dans le chiffre, on est dans le nombre d'exemplaires, etc. Là encore, il faut revenir à l'histoire de l'édition qui ne s'est pas fait comme ça. Ça a pris beaucoup de temps à s'industrialiser réellement. Au départ, c'est artisanal. Donc, nous, on est assez attachés à cette dimension-là qui nous paraît à taille humaine et qui peut se faire par une petite structure. Après, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées par rapport à ce qu'on peut faire réellement. Mais il me semble que même si on en fait peu et qu'on essaie de le faire au mieux, on recrée quelque part, en tout cas, même en tant que libraire ou en tant que lecteur, pour moi, c'est un lien avec ce qui m'a toujours attiré dans le livre et ce qui m'intéresse, qui n'est pas le nombre. C'est-à-dire que c'est une notion de qualité qui n'est pas juste opposée à la quantité, mais qui est ce qu'est la chose. Qu'est-ce que c'est un livre?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça signifie? Et comment ça agit? Alors, la qualité des livres, moi, je trouve que c'est en dehors du... C'est pas en dehors du domaine esthétique. L'esthétique, ça agit sur, sur les choses. C'est pas neutre. Mais c'est de retrouver une présence qui soit comme une présence, d'ailleurs, d'où le lien théâtral ou poétique. Pourquoi les poètes aujourd'hui viennent à la rencontre, viennent dire leur voix? Pourquoi? C'est se retrouver cette présence-là à un moment où elle est mise en question aussi. Elle est mise en question comme les personnes en tant que telles sont mises en question, de la même manière que tout ce qui est réel, quelque part, est remis en question. Voilà, c'est ça notre parcours.
Vous voulez parler maintenant de la revue que vous allez lancer ou un peu plus tard dans l'émission?
Je propose, avant de présenter une autre personne autour de cette table, juste une mini pastille, une petite virgule réalisée par les éditions N'a qu'un œil.
Merci.
Féminin. Non féminin. Tu lis des livres à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme histoire? Les livres rouges. Et quand j'aurai fini de lire les livres rouges, je lirai les livres d'une autre couleur.
C'était couleur. Le mot.
Je reprends ou tu...
Vas-y, c'était juste une pastille.
D'accord. Donc, je vais m'adresser à vous. Jean-Yves Drouet pour les éditions NNB. Donc, vous pouvez me parler de votre parcours, de la création de la maison d'édition et vous intéresser à la poésie aussi.
Oui, alors...
l'amour de la poésie.
Contrairement à mon voisin, nous sommes une édition qui existe depuis pas mal de temps. L'association a été créée en 1988 sous le nom de Un coup pour rien. Elle a été créée par Philippe Dours, Jean-Luc Haribaud notamment.
Qui est photographe aussi.
Qui est photographe. En 2003, elle s'est appelée NEB Édition. Pourquoi NEB? Parce que Noir et Blanc était pris déjà par quelqu'un d'autre, donc voilà. Et en 2008, Progresso Marin a réuni une petite équipe autour de lui et sollicité par Jean-Luc Haribaud, cette équipe a repris les éditions. Bon, malheureusement, l'an dernier, Progresso nous a quittés de façon dramatique, mais nous essayons de continuer dans la ligne que nous avions élaborée ensemble.
Vous pouvez, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, le présenter?
Progresso Marin était un poète. Il a publié plusieurs ouvrages. Il a publié des récits d'exil.
Il était fils de République espagnole.
C'est ça, de réfugiés catalans. Oui. Progresso Marin, de son vrai nom. Et il était très, très attaché à la poésie, à une démarche poétique engagée.
Mais oui, c'était un peu leur souffle, quoi, enfin, leur façon d'être au monde, celle-là, la poésie. C'était
tout à fait.
Quelque chose qui les a portés.
Tout à fait, oui. Alors, on pourrait dire qu'on est une vieille maison d'édition, mais avec la connotation de rente de situation, ça ne correspond pas du tout à notre réalité. Nous sommes quelques bénévoles et un peu toujours sur la corde raide. Mmh. Alors nous bénéficions de subventions de la région par le biais du CRL oui. pour des éditions, certaines éditions. Et vieille maison d'édition, ça ne correspond pas du tout à notre projet éditorial, puisque on est résolument axé sur la création contemporaine et sur la nouveauté. Mm-hmm. La plupart des auteurs que nous éditons n'ont jamais été publiés auparavant.
D'accord.
Alors, bon... On peut se tromper, on travaille sans filet.
D'accord, c'est eux qui frappent à votre porte ou c'est vous qui faites tout un travail de recherche ou vous les deux, comment
ça se
passe-t-il ?
Ah non, non, on n'a pas du tout besoin de rechercher, nous recevons beaucoup de manuscrits.
Ils frappent à votre porte, c'est le cas.
Voilà. Et avec Internet, actuellement, nos auteurs se sont très élargis géographiquement. Mmh, nous en recevons de tous les coins de France, de l'étranger aussi. Et nous avons en moyenne 70 manuscrits par an. Mmh. À peu près. Mmh. 70 manuscrits par an. Notre manière de fonctionner, c'est relativement simple. Dès que nous avons l'argent pour une édition, nous éditons.
D'accord.
Et on attend d'avoir suffisamment d'argent pour faire l'édition suivante.
Mm-hmm. Okay. Et je voulais évoquer aussi, avec tous les deux éditeurs, et ensuite nous passerons à vous, les artistes, le problème de diffusion. Comment, pour trouver éventuellement des recueils édités chez vous, comment les trouve-t-on en librairie ?
Alors,
grave question.
C'est un gros problème.
C'est pour ça que je pose la question.
Justement, on ne les trouve pas tellement en librairie. Sur Toulouse, seules 4 ou 5 librairies acceptent nos livres.
C'est pas mal.
Oui.
Et dans quelles conditions, vous pouvez le dire ? Parce que c'est important, je trouve, que le public le sache, comment cela se passe. Quand vous déposez des livres, quand on vous autorise.
On dépose des livres, c'est un dépôt. Voilà, c'est sur contact direct. Nous avons quand même un diffuseur au niveau national qui nous vend quelques livres. C'est très peu, mais régulier. Je reviens juste une minute sur notre projet éditorial. Nous privilégions une écriture exigeante, mais qui reste à la portée de tout le monde.
De tout un chacun.
Alors on est toujours sur la corde raide.
C'est très ténu, d'accord.
Surtout que nous éditons surtout de la poésie. Alors la poésie, c'est un mot qui fait peur.
Et pourquoi donc ?
Dans les salons, on voit la réaction des gens. Oh, moi, la poésie, c'est pas pour moi, je suis pas un intello. peut-être que les gens sont traumatisés par les récitations qu'ils ont faites à l'école également. Pourtant, notre poésie, c'est une poésie en prise avec le monde. Nous essayons de mettre en valeur des auteurs qui ont une vision personnelle, approfondie, je dirais presque généreuse aussi, de la réalité. On se retrouve tout à fait avec la notion de CAF-PO, au sens de CAF-poésie et CAF-populaire. C'est tout à fait notre ambition d'être à la fois poétique et populaire. Nous avons une assez grande admiration pour le livre de Jean-Pierre Siméon, La poésie sauvera le monde. Et c'est quelque chose en quoi nous croyons beaucoup. Alors, il ne s'agit pas, comme disait mon voisin, de faire du chiffre pour faire du chiffre, mais nous essayons quand même de faire connaître au plus de gens possible nos œuvres, parce que on y tient beaucoup. Moi, je vois...
Oui, c'est des pépites.
Exactement. Je vois, ça c'est notre dernière parution sur tes traces de Sophie Charpentier. Elle met ses pas dans les pas de sa grand-mère qui a émigré de sa Macédoine natale en 1937. Et elle décrit le cheminement, pourquoi on quitte son pays, pourquoi on quitte sa terre natale et toutes les souffrances du voyage. Quand on lit ça en 1937, ce qui s'est passé en 1937, on ne peut qu'être...
Vous dire qu'il y a des correspondances.
En communion avec ce qui se passe.
Actuellement, oui.
Actuellement, on part d'Érythrée, on part du Mali, on part du Soudan. Exactement comme la grand-mère de Sophie Charpentier est partie de Macédoine.
D'accord.
Et c'est un message de générosité, de communion humaine que nous voudrions faire partager au plus de gens possible.
Oui.
Mais les gens, on les rencontre essentiellement pas dans les librairies.
Dans les salons.
Dans les salons. Et le rendez-vous de la CAFPO est pour nous un rendez-vous très important.
Vous voulez ajouter quelque chose, Gilles, quand
non,
on...
non, non, non,
c'est bon. D'accord. Maintenant, je me tourne vers vous, Léa et Fabien. Quel rapport, justement, avez-vous avec la poésie, avec les livres en général? Et puis après, vous allez me dire comment vous avez accepté l'invitation pour être donné un récital poético-musical à la CAF Poésie ce week-end.
Alors, le rapport avec le... Non, mais... C'est normal de tout ça.
Pardon.
Il y a le rapport avec la poésie, enfin les livres. C'est une approche, en tout cas, qu'on a tous les deux en commun. Ça, c'est ce qu'on a, enfin, en tout cas, dans notre duo, c'est ce qui nous réunit, c'est la lecture. Et essentiellement de poètes, enfin, de la poésie en général, mais on a. Voilà. Et on s'est retrouvés au début à. Sur un projet pour écrire des textes, il y a 5-6 ans, ça. Et donc, l'envie d'écrire des textes, parce que c'était des textes. Enfin, nous, on voit pas ça comme des poèmes, mais après, bon, là, ça, c'est un débat.
Oui, où se niche la poésie.
Oui, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment... Enfin, et donc, au fur et à mesure, comme on est musicien dans la vie depuis longtemps, on a rajouté des sons, d'abord des petits sons par-ci, des petits sons par-là, et puis on a commencé à le faire en public. Mm-hmm. Ça, c'était il y a 3 ans.
À montrer ce que vous saviez faire. Et ce que vous aimiez faire.
À montrer, en fait, ces textes qui allaient libérer, en fait, de notre petite cage... intérieur comme ça, et puis comme ça ils font leur vie et donc voilà notre rapport en tout cas avec les livres.
La demoiselle.
oui, c'est ça. Et donc avec la CAF Poésie, donc on est venu jouer il y a un an, à l'automne dernier, et là Yann a pensé à un texte qu'il avait lu de Luigi Di Ruscio qui s'appelle La neige noire d'Oslo.
Et donc c'est un auteur italien.
Mais un auteur italien. Oui, ben il a une histoire très intéressante.
Oui.
Hein, mais ce qui s'est passé pour nous en tout cas, c'est qu'il nous a filé ce livre, donc d'une maison d'édition toulousaine d'ailleurs. Et en nous disant...
faites quelque chose à partir de
ouais,
là.
Ce que vous faites, cette lecture.
Qu'est-ce que ça évoque
J'aimerais vous proposer de bosser sur ce livre. Donc, on ne lui a pas dit, mais on pensait lui dire non. Mais par politesse, on a quand même lu le livre qu'il nous a prêté, avant de dire non, pour un peu argumenter.
Oui, quand même.
Voilà. Mais on pensait dire non parce que notre travail est vraiment basé sur nos textes. Quand je dis, c'est pas une histoire de possessivité, c'est que vraiment, nos textes, on les triture, les retravaille.
Bien sûr, oui.
On les travaille en permanence, même en direct,
c'est un long parcours,
même devant les gens, quand on performe, on les change très souvent.
D'accord.
on les modifie, ça dépend de comment ils nous viennent, enfin, etc. Donc on a une énorme liberté par rapport à l'objet texte, qui fait que bah, travailler avec quelque chose qui est publié,
avec un texte déjà écrit, ouais.
ça nous paraissait impossible. Mmh. Mais bon, bref,
et
toujours est-il
passé, qu'elle a été le
toujours est-il qu'on a lu ce livre et que ensuite on n'a plus pu dire non parce que c'était vraiment une.
Il vous a marqué. Ouais.
Voilà, la lecture était une expérience de ce livre, donc d'un bout à l'autre, était une expérience tellement géniale que. Qu'on s'est dit que ben là on allait travailler sur notre expérience de lecteur. Mm-hmm. Donc ce qu'on va présenter c'est
votre ressenti.
C'est nous lecteurs, uh-huh. voilà.
Et vous pouvez en quelques mots nous conter l'histoire de ce livre, de cet auteur si particulier.
Mais c'est difficile. C'est un bon déjà c'est un il le nomme roman, hein, mais c'est un.
C'est un roman
c'est un poème fleuve,
ouais, ouais.
Roman, poème. Il y a énormément d'éclats poétiques à l'intérieur, mais c'est surtout une performance, je trouve, d'écrivain, de se lâcher dans ce mouvement d'écriture, de faire. On a l'impression que devant lui, tout en avançant, il éclate les murs, il éclate les barrières, il éclate les censures intérieures, extérieures, les peurs d'écrire mal, de répéter, de pas faire bien.
Les conventions.
C'est une explosion créatrice, créative, c'est ça ?
Oui, et aussi. Humaine, c'est très universel. C'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui peuvent nous arriver à nous, un moment de se dire non, bah,
je vais pas lâcher. Ouais.
Pourquoi avoir peur Là, en l'occurrence, en plus, c'est un auteur qui écrit en italien et il vit en Norvège. Il a vécu toute sa vie en Norvège.
C'est un grand écart.
Voilà.
Géographique, et culturel.
Il ne parle pas italien pendant qu'il est en Norvège.
Oui, il a appris le norvégien, c'est ça.
Oui, c'est ça. Il est tout seul avec l'italien, quoi.
Voilà. Et donc, il se permet énormément de choses avec la langue. Qui, en fait, la langue... Cette langue italienne, pour lui, c'est une... c'est un terrain de jeu phénoménal, sans limite. Et il la pratique que... Par l'écriture.
Par l'écriture, oui, d'accord.
Par l'art. Donc c'est hyper intéressant aussi.
Vous voulez dire deux mots,
Yann ? En fait, il considère que la langue correcte, c'est celle du fascisme. Puisque lui, il part en Norvège, il s'exile en Norvège en 1957. Donc il a eu toute son enfance sous Mussolini. Et il considère donc que la langue parlée, la langue correcte, c'est celle du fascisme. Donc il assume clairement des erreurs de syntaxe, des erreurs de formulation. C'est vraiment
des lapsus.
Voilà. Et en fait, c'est un poète ouvrier. C'est-à-dire qu'en fait, Luigi Rousseau, toute la journée, il fabriquait des clous. J'emploie les parfaits parce qu'il est mort en 2011, il me semble. 2011. Il fabriquait des clous dans une usine à Oslo. Et le soir, il rentrait chez lui.
Il écrivait.
Il rentrait chez lui et sur sa machine à écrire, il écrivait.
Non, la journée, il fonctionnait, donc il fabriquait et ensuite il parlait en norvégien. Et le soir, il écrivait en italien.
Avec sa famille aussi, avec sa famille en norvégien. Voilà. Ouais.
Sa famille norvégienne, il a refusé d'apprendre l'italien à ses enfants. Et il avait construit autour de l'italien un îlot dans sa chambre avec sa machine à écrire qu'il nettoyait avec sa brosse à dents. Donc on est, voilà.
Non, c'est un rapport très particulier.
Ce qui est beau, c'est que c'est un vrai auteur ouvrier. Il y a plein de gens qui disent qu'ils le sont, mais bon, c'est voilà. Il y a Thierry Metz, Francis Ponge, Luigi Rousseau, on pourrait dire. On exagère un peu.
Mais il y avait un autre auteur italien, la qualité, qui a travaillé longtemps, Eri De Luca.
Eri De Luca. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une langue logoréique, toute rythmée à la virgule. Et en fait, le travail qui a salué ici au micro, c'est celui de Muriel Morelli, qui est la traductrice, et qui a réussi à rendre en français ce flot.
Ce fleuve.
Ce flot. Et moi, c'est en lisant ce flot que j'ai pensé à Poulenjard, en fait, parce que j'y ai trouvé énormément de similitudes dans leur façon de... dans des improvisations qu'ils font. J'ai retrouvé vraiment ce flot poétique complètement hallucinatoire, en fait. Parce que Luigi Di Ruccio part dans des visions... Il est à la fois communiste, un peu anarchiste. Il dénonce l'oppression des patrons, l'injustice de l'usine. Il y a des passages extraordinaires là-dessus. Et voilà, quand j'ai écouté ce que fait Poulenjard, ils ont travaillé sur la coutellerie à Thiers. Ils ont un super morceau qui s'appelle « La danse des petits couteaux ». Complètement halluciné.
Donc ça fait
complètement halluciné. Et c'est peut-être parce que j'ai aimé Nono, le petit robot dans Ulysse 31 qui mangeait des petits clous, que ça m'a parlé fortement. Mais je me suis dit que la danse des petits couteaux, voilà, ça m'a vraiment fait. Vraiment. Enfin, bon, on rigole là parce que. Voilà, c'est. Mais leur rapport en fait à l'industrie, leur rapport à la langue. Je me suis dit que là, il y avait quelque chose.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un pari qu'on propose aux spectateurs, aux spectatrices, là, tous ceux qui nous écoutent. Venez, venez écouter ça. C'est samedi à 22h30. C'est inédit. Ça aura peut-être lieu qu'une seule fois. Pause musicale, Nelly, tu nous proposes ? Une petite virgule.
Une virgule, peut-être j'allais demander, mais bon.
Je ne sais pas d'où ça sort.
Mais une... Ah, ok.
Enfin voilà le et ce qui est beau dans la langue de Di Ruccio, donc voilà, c'est une langue logoréique, c'est très proche de Céline. Il y a encore des choses dans le micro, c'est...
Ah oui, j'ai
il y a des choses, j'ai des cheveux dans mon micro, mais bon, je peux quand même parler sur cette musique, il y a pas de souci.
Oui, c'est un fond sonore.
C'est
en fait.
Oui, bah, pourquoi pas. Voilà, vous voulez, oui.
Et donc, ce qui est incroyable, c'est comment tout est rythmé à la virgule. Il y a des phrases, elles font une page, deux pages.
Oui, d'accord. Oui.
Et ça part comme ça, il perd jamais son fil, non?
Ah oui, tout à fait. Mais alors, je précise que on va pas rendre compte vraiment de ça, parce que ça, c'est vraiment une expérience de lecture. Il faut lire ce livre.
Pour pouvoir
vraiment d'un bout à l'autre, il faut prendre sa respiration et plonger dedans.
D'accord, et se laisser porter par ça.
Et nous, on va plutôt vraiment. On a choisi finalement de courts passages.
Ouais.
Ce qui peut paraître aberrant quand on a lu le livre, mais
ce qui vous parle le plus.
Parce qu'on a voulu. Plutôt mettre en valeur.
J'ai un texte, maintenant j'ai autre chose. Vous pouvez continuer, allez-y.
Oui, c'est vrai. Je dirais, c'est des. Il a une parole très. 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 Très jouissive, très. Très directe, et qui. Parfois. Peut se donner l'impression de se noyer dans des contradictions, des méandres, et puis en fait il en ressort toujours, toujours plus beau, plus et donc on a essayé de garder ces sensations de comment dire de choses qui sont plutôt lumineuses, en fait. Voilà. Parce que sinon, si on rentrait dans le côté logoréique, finalement, je trouve qu'on lui rendait pas service.
Oui, d'accord.
Parce que...
Voilà. Non, mais en plus, par ailleurs, d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de visages dans Luigi Di Ruccio, dans son écriture, parce que même si c'est très logoréique, comme tu dis, mais dans cette logorée, il y a différentes faces de ce personnage très, finalement, obscur, parce que c'est un ouvrier, la journée, mais il s'enferme le soir, c'est-à-dire que sa femme n'est pas au courant de ce qu'il écrit. Elle ne sait pas du tout ce qu'il écrit. Et il en parle beaucoup de ça, que s'il est en Italie, ce serait pas possible. Mais il se fait tout un truc parce qu'en fait, il est tout seul dans sa pièce avec son. Et alors, et ça, c'est bon. Pendant 40 ans, il était dans ce.
Ouais, c'est une aventure psychique.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, c'est aussi Poulenjard qui traverse le Didier Rochaud. Et donc, comme nous, on travaille sur des sortes de petites piécettes.
Oui, oui.
Donc là, on s'est dit, on allait faire des petites formes, des actons.
Mais c'est un formidable matériau créatif.
Ah oui. Enfin, pour là, on pourrait faire une création qui dure 3 ans à la Scala de Milan.
Non, mais effectivement, souvent les gens croient que quand on va voir une lecture, en fait, on va
écouter
un livre qui est. En fait, l'écriture, c'est la respiration de l'auteur. Mmh. Et le lecteur ou la lectrice s'affranchit de la respiration de l'auteur. Et donne au texte sa propre respiration.
Oui, bien sûr, oui. Donc, ce que ça évoque pour lui. Oui.
C'est là que c'est effectivement. Si on veut lire effectivement Luigi Di Ruscio, la respiration de Luigi Di Ruscio, on achète le roman de l'Acarsis après avoir vu la lecture de Poulenjard.
Mmh. Et il sera présenté, le livre, il sera.
Bien sûr.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est comment justement dans les lectures-concerts qu'on propose à la CAF Poésie, comment la musique vient.
Accompagner.
Oui, lire elle aussi le texte.
Oui, bien sûr. Oui.
Elle vient donner.
Elle est actrice aussi, oui, d'accord.
Donner à entendre le texte. Un texte qui est non dit. Mais finalement, moi, des répétitions que j'ai pu entendre, j'y ai retrouvé. J'ai retrouvé dans la musique que j'ai pu entendre. Luigi Di Ruscio, cet ouvrier, cette rage, cet aspect industriel, enfin. Une lecture, si c'est pour lire un livre, je vous lis du chapitre 1 au chapitre 2, les 20 premières pages, comme ça vous saurez ce qu'est le roman. Merci beaucoup, tant que je l'achète.
Non, il se passe autre chose, c'est sûr. Qui le lit, ce qu'elle en fait, comment elle le ressent, comment elle le donne, comment.
Et après, l'idée, c'est que les gens
achètent autre chose. Oui.
Puis là, en plus, ce que voulait Yann, c'était aussi une confrontation, une rencontre
deux univers
que lui a rencontré. Voilà. Donc c'est ça aussi qui compte.
Je voulais demander à Nelly qu'elle nous donne une petite respiration.
Apparemment, il y a des.
Nous allons continuer. Oui.
Mais par rapport à ça, juste, c'est un aspect qui est important chez René et c'était dans l'intention aussi de le faire et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne, qui est en train de chercher, mais qui commence à trouver pas mal. C'est-à-dire que pas juste de présenter des livres, qui étaient traditionnellement un salon. Pas juste faire une lecture, mais transformer les choses. Parce qu'il y a cette dimension qui
c'est
a
ouvrir
aussi l'histoire
d'autres.
De la CAFPO, qui est un lieu qui croise du texte, du théâtre, des petites formes, ça joue aussi, je veux dire, l'espace.
De la,
et
musique,
de la musique
aussi. Ouais. Il y a eu même de la danse, des fois.
De la danse, évidemment. Et c'est aussi, moi je trouve, autant en tant qu'éditeur qu'ex-libraire, enfin, que ça c'est une dimension très importante. Moi, j'ai beaucoup appris de la poésie contemporaine. Je salue le regard au passage. Parce qu'on revient à cette capacité de transformation d'un texte. C'est vrai pour la lecture silencieuse, chacun fait
bien
sa lecture.
Bien sûr, son
et
petit
quand
chemin, oui.
Des gens viennent l'investir musicalement, au niveau montage, etc., etc. Tout ce qu'on peut faire, on peut faire des choses...
Multiples, oui.
Voilà.
Variées.
On redonne à vivre quelque chose.
Il y a quelque chose de charnel aussi.
Ben oui, c'est... Les livres sont faits, comme on dit... ce roman-là, je ne connais pas, enfin, qui est apparemment un poème, plus... Où est la poésie? La question, elle est là aussi. C'est-à-dire que c'est aussi... on est dans un pays où on aime beaucoup les catégories, mais c'est pas le cas partout. Quand on dit littérature en France, tout le monde comprend roman, mais tout le monde.
Oui. Alors que la littérature, c'est
vaste. On parle même pas de nouvelles. On parle jamais de nouvelles.
De théâtre
non
plus.
On parle pas de récits, de théâtre, on n'en parle presque pas. Et il y a plein de formes de poésie qui sont des formes de poésie concrètes, narratives, etc.
Ouais, ouais.
Où il n'y a pas Au-dessous du volcan de Laurie. Pour lui, c'était un poème. Il a toujours dit que c'était un poème. C'est les frontières, on les met pour des raisons un peu commerciales quand même. Donc c'est aussi essayer d'amener un public, je crois, à croiser et à faire des expériences.
Et à mieux faire connaître et à mieux faire entendre et comprendre, oui, la création littéraire dans sa globalité, si je puis dire, avec tous les possibles.
Oui, avec tous les possibles.
Avec la musique, avec le fait d'être confronté aussi à un public, enfin, dans un lieu donné, à un moment donné, certes, mais oui, ça enfin... En vous écoutant, et puis pour avoir été l'an passé à la CAF Poésie, savoir aussi, oui, avec l'ordre du sensible, en fait, du charnel et du sensible.
Kafkaïen, kafkaïenne, adjectif. À la CAF.
Bienvenue à la caisse d'allocation familiale.
S'utilise pour désigner les problèmes insolubles, inextricables, inexplicables. Exemple, les grands chefs ont un discours kafkaïen.
Les informations sont données ici de façon générale et concernent les situations les plus courantes. Elles ne tiennent pas compte de certains cas particuliers.
Merci. Nous allons peut-être évoquer aussi vos autres invités, puisqu'ils sont nombreux, et tout ce que vous proposez. Il y a notamment les ateliers où chacun peuvent
participer.
Voilà. Et aussi, j'aimerais que vous parliez de ce qui se passe dans la rue du Temple, cette réappropriation de la rue, où comme ça, la poésie est justement dehors. Enfin, elle est au contact du promeneur, de la promeneuse.
Elle est au contact.
Oui, tu te rends compte.
Mais malheureusement...
Et comment faites-vous pour faire dans la rue, pour cette réappropriation?
Eh bien, nous essayons de le faire.
De la poésie par la rue.
Nous essayons de le faire. Malheureusement, cette année, festival de Ramonville a choisi d'être programmé pendant les Journées du Patrimoine, donc pendant chez René. Et comme tout le monde le sait, il pleut toujours pendant le festival de Ramonville. Il va pleuvoir ce soir. Et il va pleuvoir ce soir. Et donc, le spectacle qui était prévu dans la rue du Thor va être rapatrié dans la cave à cause du festival de Ramonville. Donc, si Pierre Boisson m'entend, je lance un appel désespéré au festival de Ramonville en lui demandant l'année prochaine de revenir. Au premier week-end de septembre et non pas au deuxième parce qu'il y avait le salon du livre et tant qu'il n'y avait pas Ramonville à ce moment-là, il faisait beau, depuis qu'il y a Ramonville il pleut. Donc nous essayons de mettre la poésie dans la rue, mais la pluie est peut-être la pire ennemie de la poésie, même si Verlaine a fait de si beaux poèmes, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur. Mais là, malheureusement, voilà. Donc, nous investirons la rue du Thor, je dis ça, pour l'expliquer aux auditeurs, aux auditrices, mais pour parler plus sérieusement, l'idée, c'est vraiment, effectivement, d'être dans l'espace public.
Oui.
La poésie à la CAFPO, on la sort justement de la CAF pour l'amener dans la rue.
Et pour montrer aussi toutes ses facettes, parce que la poésie, c'est très large, c'est un éventail.
Oui,
c'est pas quelque chose de très... fermé, enfin, c'est tout le contraire.
Pour nous, la poésie, c'est un regard. Mmh. C'est un regard sur le...
Ouais, c'est une attitude.
C'est un faire un pas de côté, c'est décaler le regard, c'est voir les choses différemment. C'est une arme. D'ailleurs, on a repris une phrase de Fabienne Hiver qui dit « la poésie en gants de boxe ». Et vraiment, ce qu'on défend à la CAFPO, c'est ça, la poésie en gants de boxe. Parce qu'elle vient décaler le quotidien, elle vient regarder différemment ce que nous vivons. Donc, l'idée, c'est investir l'espace public pour, à nouveau, faire que cet espace soit public et soit collectif. Puisque là, aujourd'hui, malheureusement, on faisait la performance avec Fabienne Hiver, tout à l'heure on l'a entendu, mais la performance n'est pas allée au bout, puisqu'à 11h15, la gare a été évacuée, manu militari pourrait-on dire, parce qu'il y a une valise abandonnée, donc
d'accord.
On a été obligé de laisser tout en plan et de sortir de la gare. Et finalement, avec la phobie que nous vivons en ce moment, l'espace n'est plus public, l'espace est complètement... policé dans tous les sens du terme, de policé, et on a envie un peu de la rencontre ne peut avoir lieu que par un accident, Et finalement, dans l'espace public, ce que veulent les politiques, c'est que ça circule, qu'il n'y ait justement pas d'accident, qu'il n'y ait justement pas la possibilité de s'arrêter. Mmh. Et nous, on veut refaire de la rue du Temps un espace d'arrêt. Mmh. Voilà, donc on va mettre des canapés, on va mettre des petits guéridons, on va mettre des chaises, on va mettre un petit bar. Et les gens pourront se poser, s'asseoir dans la rue tranquillement, discuter et recréer comme ça l'espace de... Voilà.
Et comment réagissent les personnes qui ont des échoppes rue du Thor face à votre...
Les personnes qui ont des échoppes rue du Thor sont avant tout des commerçants.
Oui, je sais
donc
bien,
eux, ce qui leur importe, c'est de vendre des choses. Et la problématique qu'il y a rue du Thor, c'est justement qu'ils ne vendent pas.
Il y a aussi des...
Parce que
des,
c'est une rue touristique.
Il y a des librairies, il y a une librairie aussi des... comment on appelle...
Ah, mais ça, c'est les bouquinistes.
Voilà, oui, je cherche le terme.
Ça, c'est, ah, mais ça, c'est encore autre chose. Mm-hmm. Ça, c'est encore autre chose. Mais la problématique de la rue du Thor, c'est que c'est une rue touristique. Et que les Toulousains l'ont complètement désertée. C'est-à-dire que plus personne ne vient rue du Thor. Les Toulousains, alors c'est oui vraiment, et c'est là vraiment la problématique des commerçants, c'est de ramener les Toulousains dans cette rue, parce que ce n'est qu'une rue de passage pour les touristes, les cars de japonais et le petit train touristique qui vont du Capitole à Saint-Cernin.
Mais attendez, je suis naïve, parce que bon, il y a la cinémathèque, il y a vous, il y a la cave poésie, oui. Il y a les locaux de l'Essave en face,
bien sûr.
Souvenirs sont bons.
Oui, oui. Mais la cave poésie, la cinémathèque, tout ça, les gens y vont le soir.
Mmh. Oui.
Mais dans la journée. Uh-huh. Moi, pour vivre la rue du Thor depuis que je suis à la cave poésie, finalement, c'est un petit village, cette rue. Mmh. C'est vraiment génial à vivre. Mmh. Avec le bar de l'Esquille, avec le Sherpa, avec
le Sherpa qui est là depuis des
Leader Price. Ouais. Y a tout. On peut vivre. Non, mais on peut vivre entièrement rue du Thor. Franchement, c'est un petit village, quoi. Il y a la poste, il y a tout, tout le monde se connaît.
Il y a même un chocolatier.
Ouais, tu gardes mon vélo, ouais, super, ouais, ça va, ouais, tac, tac. C'est vraiment génial. Sauf que cette rue, à part pour ceux qui y sont au quotidien, mais pour tous les Toulousains, c'est la grosse rue touriste où personne n'a rien à y faire. Et nous, ce qu'on avait envie avec la CAFPOU, c'est de recréer un point de fixation là. Donc, pour répondre à votre question, les commerçants, eux, ce qui les intéresse, c'est que justement de recréer de la vie, de recréer un espace où on peut être. Puisque dans une ville, on n'a plus lieu d'être. Là, l'espace de possible. Mm-hmm. Et alors, les bouquinistes, ben, c'est bien pour eux, parce que ça, voilà, ça crée du passage, et ils sont en écho. Mm-hmm. Ils sont en écho.
Mais c'est pour ça que j'évoquais... Enfin,
Pour illustrer ce que vient de dire Yann sur la définition de la poésie. La poésie, c'est l'écart, le pas de côté. Je voudrais lire un poème de Muriel Camac, extrait de Regardez vivre. Ça s'appelle Itinéraire. Il y a le chemin qui mène à la rivière. Et puis, le chemin à côté du chemin, qui mène aussi à la rivière, mais en passant ailleurs, à côté. Le chemin à côté du chemin qui passe derrière les arbres, plus dans l'ombre, plus dans les orties. Le chemin moins emprunté avec des mottes de terre laissées par les taupes, des crottes de lapins toutes fraîches et des flaques plus grandes après la pluie. Le chemin qui est peut-être plus un détour qu'un chemin, quoiqu'il ne fasse pas perdre beaucoup de temps. Et qu'on évite sans se demander pourquoi il existe deux chemins pour aller à la rivière. Et qui donc l'emprunte ? Il n'est rien de spécial, on n'y entend pas de musique oubliée, on n'y apprend pas de mots nouveaux. On n'y voit rien de plus que ce qu'on voit sur l'autre chemin. C'est une autre possibilité.
Merci infiniment. Souhaitez-vous parler de la revue que vous allez lancer,
oui,
Gilles Connor?
Puisqu'il y aura une présentation demain.
En avant-première, si on peut dire.
Ah oui, c'est une avant-première. Je serai avec d'autres revues, Recto Verso et Jeff Clack. Mm-hmm. Voilà. Ben c'est venu par l'édition Attaché les Fous et aussi en parallèle avec l'expérience de librairie et surtout sur la fin de la librairie en fait. Mm-hmm. Voilà, donc parce qu'à un moment donné on a pris la décision d'arrêter en fait. Mm-hmm. Voilà.
Oh, les beaux jours.
Et bon, très bien, on a pris la décision, ça faut du temps hein, pour.
J'imagine.
Et l'été juste avant, comme par hasard, j'ai commencé à noter plein d'idées dans un carnet. J'ai pas pensé de suite. Hein. Mm-hmm. Non, ouais, ça serait super de faire une revue et comme ça, je pourrais rassembler tous les gens que j'ai croisés. Et puis il y a plein de gens qui font des trucs super, mm-hmm. en fait, voilà. Et puis après, j'ai réalisé, mais oui, évidemment, c'est la peur que j'avais, quelque part, il y a aussi ça. L'envie, c'était de rassembler, mm-hmm. voilà, et la peur, c'était que ça se perde. Mm-hmm. Parce qu'une librairie, en dehors du commerce, devrait être aussi un lieu de rencontre, d'échange, etc. Ouais, et que c'est essentiellement ça que nous, on a vécu, en tout cas. Ouais. Et voilà, donc c'était une manière de continuer ça.
D'accord.
C'était en lien aussi, effectivement, avec l'expérience aussi du Festival des Bruissonnantes en gare, avec ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant à la CAFPO, toutes ces expériences-là. Qui m'ont fait voir aussi qu'il y avait tout un réseau aussi bien, alors qui touche différents domaines. C'est-à-dire que ça va de la poésie contemporaine, la petite édition. Moi, je connais des gens aussi à travers la gravure, ou des pratiques de dessin, de sérigraphie, ou autre chose comme ça. Mais il me semble photographie, enfin bon, voilà, etc. Et tout ça, ça peut se croiser, ça peut échanger.
Se rencontrer.
Donc, à partir de là, c'est les revues qui font ça. C'est vraiment... voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que moi, j'adore les revues. Je suis un grand fan de Dada, donc ça a une grande importance. Que je crois beaucoup à l'esthétique, au croisement de la typo, de la poésie, de ce qui est une image ou pas une image, un texte, de la transformation, ce que je disais tout à l'heure. Et je trouve au champ d'expérimentation. Voilà. Les revues sont très précieuses, elles ont été très précieuses, même indispensables, on oublie complètement ça. Les journaux aussi, dans l'histoire littéraire,
bien
souvent,
sûr, oui, ouais.
On demande à des gens d'écrire d'un coup un livre, je veux dire, sans pouvoir expérimenter des choses. Donc essayer de refaire un lieu comme ça, à petit moyen, puisqu'on est une petite maison d'édition, mais voilà, du coup je me suis dit, bon, raisonnablement, il faut au moins un an. Là on a annoncé fin 17, ça sera peut-être début 18 pour bien faire les choses. Et puis, mais voilà, c'est 300 exemplaires, c'est une petite chose. Mais c'est essayer de semer une petite graine aussi dans plein de gens que j'ai rencontrés, que je trouve super, voir comment ça va se passer.
Maintenir un lien aussi, certainement.
Maintenir un lien, et peut-être après, avoir quelque chose qui pourrait se transformer et qui pourrait circuler.
Et alors, aussi, la revue, vous lancez une souscription, ou où sera-t-elle disponible? Parce que là aussi, les revues, on ne les trouve pas partout non plus.
Oui, là on va...
Surtout les revues comme ça, très spécifiques, très spécialisées.
Ouais. Cette occasion, voilà, chez René, on va présenter un peu pour prendre des contacts. On fera sans doute une souscription sous une forme. Et puis après, on y sera sur un petit réseau de diffusion. On espère que chacun, dans sa ville, dans les gens qui participent, pourront la faire connaître un petit peu. C'est modeste, quoi.
D'accord. Hein? Ok. A-t-on, je ne sais pas. Nous reste-t-il... Non, on n'a plus de temps. C'est ça, je crois que nous allons nous séparer. Donc, vous rappelez les dates, les horaires.
Donc, le bazar, on vous donne rendez-vous ce soir, donc à partir de 20h, pour un spectacle de danse qui s'appelle Interprétis. Ça devait s'appeler Exterprétis parce que c'était à l'extérieur, mais ce sera à l'intérieur, donc ça s'appellera Interprétis.
Mais vous êtes sûr de votre histoire qu'il va pleuvoir ce soir?
Si, c'est sûr.
Vous avez bien regardé Météo France et tout et
Oui, il y a Ramonville en ce moment, c'est sûr.
Mais quelle mauvaise langue, ce garçon.
Mais c'est vrai.
Tu en veux à Pierre Boisson, c'est pas possible.
Pas du tout. C'est scientifique. Vérifier. Et ce soir, donc, à 21h30, Carlton Rara lira des textes de Guy Viard, qui est un des fondateurs de la maison d'édition Ficile. Et ensuite, demain et dimanche, ça commence à partir de 11h. Et les spectacles commencent à partir de 13-14h, samedi et dimanche. Donc, samedi après-midi, ce sera dédié à des revues. La revue... 17, Jeff Clack et la revue Recto Verso. Le soir, il y aura des lectures de Toupie or Not Toupie. Il y aura François Angelier de France Culture, l'émission Mauvais Genre qui fête ses 20 ans. On fait ça en partenariat avec Groland. Il va parler d'auteurs complètement réac, Octave Mirbeau, Léon Blois, anarchistes de droite, si on peut dire. Et voilà, le François Angelier va célébrer son émission. Donc venez voir ça.
C'est
et
chic,
puis à 22h30, Poulain-Jarre. Et puis dimanche, NEB notamment, qui donnera lecture de quelques-uns de ses textes. Et on finira le week-end à 17h par Fabienne Hiver, qui refera sa performance, la performance qu'elle a réalisée là tout à l'heure à la gare. Donc d'accord. Pour toutes celles et tous ceux qui l'ont loupé, venez à 17h, c'est à la cave. Venez tôt parce qu'il n'y a que 50 places.
Avec Simone Héro?
Non, mais on l'a enregistré. Pour la savoir.
Et donc, il y a aussi la possibilité de rencontrer les différentes éditrices et éditeurs. Exactement. Et c'est toujours important de voir, de parler avec les gens, de savoir comment cela se fabrique. Et puis aussi avec des graphistes. Enfin,
25 éditeurs, éditrices de la région, mais pas que. Et puis des ateliers. Alors, pour les ateliers, c'est de la sérigraphie, c'est des affiches, du dessin, de la linogravure. Pensez à amener vos t-shirts, vos torchons, vos tabliers, vos petites culottes, vos boxers, ce que vous avez envie, qu'on pourra sérigraphier avec vous. Voilà.
Okay. Merci à tout le monde. Merci,
merci
Nelly.
À vous. Merci.
À bientôt. Et donc, soyez curieux et allez découvrir Bazar chez René ce week-end. Au revoir.
Avec lequel, s'il met de l'eau, il peut faire la fête en arrosant tout le monde. Il a aussi des oreilles hyper grandes pour entendre tout ce qui se passe dans la ville. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle en chuchotant, lui, il peut l'entendre. Il se balade dans la savane avec ses sabots et il s'amuse avec ses copains qu'il aime beaucoup, car il peut aussi jouer de la trompette avec son nez. Pom, pom, pom.